Le retour de Radio X.
Avec DH, Jordan et Mel Trudel.
Radio X.
Dans le retour de Radio X. L'enquêteur du paranormal. Christian Page.
Ah, c'est lui. Fidèle au poste, Monsieur Page.
Toujours.
Avec.
Moi, je suis un gars qu'on peut compter dessus.
Oui, c'est vrai. Là-dessus, il est très fidèle et très ponctuel aussi.
Oui.
C'est souvent nous autres qui ne l'est pas, qui ne le sont pas.
Et moi, derrière mon micro, je patiente. Mais bon.
Ouais, c'est ça.
Fait ben, des sudoku.
Oui, oui.
Ouais. Oh, mais Christian, c'est un homme débrouillard.
Ouais, absolument. Oui. Je trouve le moyen de me divertir autrement.
Hey, tu m'impressionnais parce que c'est une saison complète. Il me semble que tu avais un show d'une heure à tous les jours.
Oui.
C'est quelque chose pareil, là.
Oui, tout à fait.
C'est de la matière.
Ouais.
Là, je ne sais pas si tu as tes appareils pour détecter, mais tu vas nous parler, entre autres, des fantômes du Canadien.
Oui, bien, en fait, c'est assez amusant parce que depuis la victoire du Canadien, on s'entend, la première victoire sur le Lightning, là,
ouais, la série,
avec les sabres de Buffalo, c'est autre chose. Mais dans cette première série, évidemment, le dernier match en particulier, avec une deuxième période où il n'y a eu aucun lancé, et puis... Sans faire un mauvais jeu de mots, c'est sûr qu'on peut pas dire que la dernière partie contre le Lightning, on l'a gagné. Hein, le Canadien l'a gagné, mais c'était quand même pas des buts glorieux. Là. On n'a pas assisté à des jeux extraordinaires. Puis là, les gens sur le bout de leur fauteuil en savoir c'est un but fantastique. Mais bon, ultimement, on a gagné. C'est surtout ce qui compte, ce qui nous a permis d'aller, ce qui a permis en fait aux Canadiens d'aller contre les Sabres. Et là, des gens ont ramené un peu, ouais, on a gagné. C'est peut-être les fantômes du Forum qui finalement ont déménagé au Centre Bell. Alors évidemment, bon, tout le monde se pose la question, mais qu'est-ce que c'est que ces histoires de fantômes du Forum? Et en particulier pour la plus jeune génération hein, qui découvre le Canadien de Montréal, là, je pense les adolescents ou les jeunes adultes, pour beaucoup d'entre eux, les fantômes du Forum, ça ne dit pas grand-chose. Et pourtant, ça fait partie du folklore local, hein. Cette histoire des fantômes du Forum. Et quand je dis le Forum, on parle de l'ancien Forum.
La bâtisse, là.
L'ancienne, ouais, effectivement, qui se trouvait dans le secteur d'Atwater. Là. Et cette bâtisse-là, bien évidemment, à quel moment apparaissent ces histoires de fantômes? Parce qu'il faut quand même se le rappeler, ça a été une période, et en particulier là, dans les années 60-70, le Canadien de Montréal, c'était la Sainte-Flanelle, c'était l'équipe à battre. Hein, c'était une dynastie. Et dans bien des cas, le Canadien... Ça n'enlève rien à la qualité des joueurs, mais très souvent, ils ont eu des coups de chance incroyables, des rondelles qui frappaient le poteau alors qu'ils étaient en désavantage numérique et tout le reste. Et peu à peu, cette idée qu'il y avait des fantômes qui devaient un peu protéger ou tirer les ficelles dans l'ombre pour permettre les victoires du Canadien a commencé à circuler. Mais c'est difficile de savoir à quel moment cette histoire-là apparaît. Moi, les quelques recherches que j'avais faites sur le sujet, j'avais parlé avec quelques individus qui étaient là au Forum dans les années 50-60, à l'époque où Maurice Richard jouait. Et en fait, il semble que l'origine de ces histoires-là remonte à une époque où le Canadien n'était pas encore le Canadien de Montréal. Il portait le nom des Maroons de Montréal. C'était donc l'ancêtre du Canadien. Et on semble faire remonter cette histoire de légende à Howard Morenz. Moi, je ne connais pas vraiment, je ne suis pas un grand fan de hockey, mais dès qu'on cite ce nom-là, pour les amateurs de hockey, c'est un nom qui résonne. Il est décédé en 1937 et il était le célèbre numéro 7 du Canadien. D'ailleurs, le premier chandail avec un numéro du Canadien qui a été retiré justement pour honorer un joueur, c'est le numéro 7 de Howard Morenz. Et il a été intronisé dès l'ouverture du Temple de la Renommée à Toronto. Il a été l'un des tout premiers joueurs à être intronisé au Temple de la Renommée. Et durant la saison 1936-1937, il s'est produit malheureusement un grave accident. Là, on est dans la partie du 28 janvier 1937. À ce moment-là, les Maroons ont gagné leur dernière Coupe Stanley, remonte à 1935. Ils sont en bonne voie. Hein? C'est l'équipe un peu favorite. Et Morenz va glisser sur la glace. Son patin va aller se loger, là, le patin du pied gauche va aller se loger entre la bande et la glace. Et le joueur de l'équipe adverse, un joueur des Blackhawks de Chicago, va chuter sur lui. lui briser la jambe à plusieurs endroits. Aïe. Et Morenz va être transporté à l'hôpital. Et curieusement, alors qu'il est en convalescence à l'hôpital, il va décéder d'une crise cardiaque. En quelques semaines, alors qu'il est toujours en convalescence, il a un malaise et il décède d'une crise cardiaque. Et apparemment, et c'est assez étrange comment l'histoire des fantômes se met en place, parce que le Canadien, les Maroons, à ce moment-là, ne gagneront pas la saison de 1937. En fait, ils vont renouer avec la Coupe Stanley qu'en 1944, donc plusieurs années après. Et à ce moment-là, les Maroons ne sont plus les Maroons, mais ils sont devenus le Canadien de Montréal. Mais néanmoins, on va commencer à raconter que ça doit être le fantôme de Morenz qui veille sur les victoires du Canadien. Et éventuellement, lorsque d'autres joueurs vont disparaître, des joueurs célèbres du Canadien. On les connaît tous, là, notamment pour les années 70. Bon, il y a eu Maurice Richard un peu avant, mais ensuite, il y a eu tous les Guy Lafleur, Jean Béliveau et toutes les autres qui sont décédés. C'est comme si ces gens-là, une fois décédés, rejoignaient une espèce de confrérie dans l'invisible qui veille au succès du Canadien de Montréal. Donc, c'est un peu ça l'histoire des fantômes du Canadien. Évidemment, lorsque le Canadien a quitter le forum, l'ancien forum, pour aller au Centre Bell.
On dirait qu'ils n'ont pas trouvé destination, Christian.
Ils voilà, les fantômes n'ont pas...
C'est ça que je disais en blague, en open, tantôt, je dis, moi, ils sont arrêtés chez Paris avant d'arriver au Centre Bell.
Ouais. T'as tout à fait raison, Jordan. On s'est longtemps posé la question, coudonc, sont-ils restés au vieux forum? Est-ce qu'ils sont rendus maintenant à regarder les films? Parce que c'est un cinéma, maintenant, qui se trouve là, à Place Alexis Néon. Ils sont restés là pour regarder les films, puis ils ont décidé de déserter le Centre Bell. Mais néanmoins, bon, évidemment, il semble que le Canadien, là, pour cette saison, a renoué avec la victoire, avec cette première élimination des Lightnings. J'ai l'impression, pour avoir vu le match, ou en tout cas une partie du match d'hier, que pour éliminer les Sabres de Buffalo, il faudra plus que des fantômes.
beaucoup. Hey, mais je t'amène, parce qu'il nous reste 7-8 minutes, Christian. Oui. Sur des fantômes qui se manifestent au Québec ou peu importe en Amérique du Nord, est-ce que c'est encore d'actualité, ça? Y en a-tu? Puis de quelle façon on se déplace pour aller voir s'il y a des manifestations? Ça peut être des histoires de gens qui disent « Hey, moi, me lève le matin et mes portes d'armoire sont ouvertes. » Ou ben non, il y a des objets qui sont déposés sur mon terrain ou dans ma maison ou dans ma grange, peu importe. Y en a-tu des cas qui sont dans l'actualité?
Il faut quand même le dire, Danny, le phénomène des fantômes et des maisons hantées, c'est un phénomène qui remonte à l'Antiquité et c'est un phénomène qui perdure à travers le temps. Donc, on ne peut pas dire « Ah, il y a une période où il y a plus d'histoires de fantômes ou moins d'histoires de fantômes. » Ce sont des phénomènes qui sont récurrents, qui sont rapportés à travers le temps, et ce qui amène bien sûr les scientifiques à se dire qu'il doit s'agir d'un phénomène bien réel. Et là, je vais quand même préciser, là, parce que souvent des phénomènes qui vont demeurer un peu cycliques ou sur une période de temps et disparaissent nous montrent bien que ce sont des phénomènes folkloriques. Par exemple, aujourd'hui, plus personne ne voit des farfadets ou des gnomes. Hein, maintenant, on voit des fantômes, c'est-à-dire on voit des ovnis, par exemple, ou des trucs semblables. Mais le phénomène des gnomes et des farfadets a disparu. Ce qui nous montre bien qu'il s'agissait sans doute d'un phénomène qui était beaucoup plus folklorique et qui se limitait à une période de temps dans l'histoire où ce folklore-là était populaire. Dans le cas des phénomènes de fantômes et de hantises, c'est des phénomènes qui, comme je l'ai mentionné, là, dès qu'on peut remonter dans l'Antiquité, trouver des récits où des histoires de fantômes sont rapportées dans d'anciennes chroniques grecques ou d'anciennes chroniques romaines. Ce qui nous montre bien que le phénomène est omniprésent à travers l'évolution humaine.
Mais qu'est-ce que tu penses, Christian, des gens qui font venir soit des prêtres pour purifier des maisons après un meurtre ou des suicides, parce que les gens se disent « Hey, je ressens il y a quelque chose dans ma maison, c'est plus pareil. » Ou ils achètent une maison, puis là, ils apprennent qu'il y a eu un meurtre là, puis ils disent « Il y a quelque chose là. »
Je vais essayer d'être précis là-dessus, Danny. Ouais. Moi, ce qui m'intéresse comme journaliste, je suis pas là pour croire ou pas croire. Je suis pas un ésotériste, un mysticiste. Je fais pas là-dedans. Je suis un chasseur de fantômes. Je suis pas là-dedans non plus. Moi, la seule chose qui m'intéresse, puis je sais, les gens disent « Ah, Christian Page, je ne crois en rien. » Oui, je crois en une chose, je crois en la science. Donc, j'essaie toujours de porter une réflexion en fonction de ce que la science nous propose. Donc, si toi, au niveau de tes croyances, tu crois que ta maison est malsaine parce qu'il y a eu des meurtres, puis tu décides de la faire purifier, ou tu crois qu'il y a des manifestations et tu décides de faire appel à des chasseurs de fantômes, c'est libre à toi. Mais il faut quand même le dire, tout ça relève du folklore et il n'y a rien là-dedans qui relève de la science. Les chasseurs de fantômes, puis je me suis souvent exprimé là-dessus, ce sont des zigotos qui utilisent des appareils, qui détournent des appareils, qui ont des vocations premières, détecter des champs électromagnétiques, etc. Ils les utilisent pour faire de la chasse aux fantômes, alors qu'il n'y aurait absolument rien qui permet de croire que les fantômes font brassent les cartes des champs électromagnétiques, tout ça. Ça
c'est fait jamais beau. Arrivé de quelque chose de concret, prouvable,
oui,
scientifiquement.
Oui, c'est ça. Oui. C'est arrivé de manière concrète. Là. Il y a quelques équipes de... Il faut se rappeler, dans les années 70, c'était l'âge d'or de la recherche en parapsychologie. Et plusieurs universités à travers le monde avaient des départements de recherche en parapsychologie. Ces gens-là, évidemment, s'intéressaient par la bande à des phénomènes plus larges que la simple perception extrasensorielle et ça incluait le cas des maisons hantées. Plusieurs de ces équipes se sont rendues sur place et ont documenté des manifestations de manière rigoureuse. Donc, ce que l'on peut dire sur le plan de la science, encore une fois, je ne fais que m'exprimer au nom de la science, on peut dire que les phénomènes sont authentiques, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des phénomènes étranges qui semblent échapper à la science, qui se produisent dans des maisons. Maintenant, ces phénomènes-là sont-ils produits par des revenants? Poète, il n'y a aucune preuve qui supporte ça, là. Rien du tout. Là. Le fait qu'une porte s'ouvre ou que des gens se sentent mal à l'aise dans un lieu en particulier ou sentent une oppression, on peut bien dire que le phénomène est réel. Si eux veulent attribuer ça à la présence de revenants, libre à eux, mais sur la science, elle s'arrête. Là. Quand tu me parles d'une porte qui s'ouvre, c'est une chose. Quand tu me dis que la porte, elle s'ouvre parce que c'est mon oncle Albert qui l'ouvre, là, la science n'est plus là. La science a quitté le terrain. Là. T'sais, comme le disait si bien un célèbre artiste, has left the building. Thank you and good night. C'est exactement ça.
Mais tu sais, les tables, la table de Ouija là, qui bouge, là, c'est du folklore aussi?
Non. Chacun de ces phénomènes-là, dans le cas, par exemple, du Ouija, on pourrait longuement en parler, c'est un mécanisme qui est bien connu des neuroscientifiques qu'on appelle les phénomènes idéomoteurs. C'est-à-dire que si toi et un participant, vous jouez au Ouija et tu poses des questions, tu es dans une maison hantée, par exemple, tu mets ton Ouija sur la table, puis là, avec un collègue, tu dis, bon, y a-t-il un esprit dans cette maison? La réponse est oui. Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Maurice. Es-tu mort dans cette maison? Oui. Bon, les réponses sont authentiques. Le Ouija bouge et te donne ces réponses-là.
Mais ça bouge pour vrai, puis il n'y a personne qui...
Et il y a réellement des réponses. Maintenant, ce que la science nous dit, c'est que ces réponses-là, c'est toi qui les produis. En fait, ton cerveau n'aime pas le vide. Et dès que tu poses la question, comment t'appelles-tu, ton cerveau inconsciemment va donner un nom. Marcel, Maurice, peu importe.
Oui.
Il y a toujours quelqu'un
qui bouge. Il y a quoi qui bouge.
Et là, ces réponses-là, en fait, elles sont générées par ton inconscient. Et ton inconscient gère la réponse. Ta main pousse le mobile. Et entre les deux, il y a l'interface de ta vision qui conduit le mobile là où il doit être.
Là, je vais te suivre, là. Mécaniquement, il y a quelque chose qui bouge sans que personne n'y touche.
Non. Quand tu mets tes doigts sur le mobile, il y a quelqu'un qui va le pousser. Toi, par exemple, le participant A et le participant B, ben, ou le participant A ou le participant B va pousser le mobile. Il le fait inconsciemment.
Que ça peut être une forme d'énergie qu'on dégage?
Il le pousse avec ses muscles. Hein? Okay. C'est une action musculaire.
Hein? Un des deux qui arnaque l'autre.
Oui, c'est ça.
Qui l'arnaque inconsciemment. C'est ça qui est important de retenir. Hein? Ça se fait à un niveau inconscient, c'est-à-dire qu'il ne se dit pas « je vais pousser le mobile ». Inconsciemment, son cerveau lui dit « le fantôme s'appelle Maurice okay. ». Donc, bouge le mobile vers le M, le A, le U. Et inconsciemment, la main, il y en a un qui pousse. Inconsciemment, il va pousser sans que ce soit une action volontaire. Hein, il va pousser un peu comme ton cœur qui bat. Hein, ton cœur est une action... Les battements de ton cœur, c'est des actions... Ça peut paraître étrange, mais ce sont des actions volontaires. Okay. Mais ton cœur ne te demande pas à chaque battement, « Je peux-tu battre un coup de plus? » Tu comprends-tu? Ça se fait de manière inconsciente.
Je vais donner un autre scénario. On est 20 autour de la table et de ce jeu de Ouija-là. On a tous les mains attachées en arrière du dos.
Ça ne marchera pas.
Il ne se passera rien.
Il n'y a rien du tout qui va se passer.
Okay.
Il n'y a vraiment rien du tout qui va se passer. Okay. Et je sais qu'il y a des gens qui nous écoutent qui vont peut-être dire « Ah ouais, moi, j'ai déjà joué Ouija, puis le Ouija a été pitché dans le mur, puis le mobile a bougé, puis bon, etc. » Ou le Ouija bougeait tout seul. Ça se peut bien. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas vrai. Je ne peux pas remettre en question leur récit. Mais il faut quand même se rappeler que depuis que la parapsychologie fait ce type de recherche en laboratoire, donc depuis les alentours des années 1920, on parle ici de dizaines, voire on parle ici de centaines, sinon de milliers de cas où les chercheurs ont utilisé un Ouija en laboratoire dans des conditions rigoureuses et jamais, pas une, pas deux, là. Jamais le Ouija a bougé tout seul. Donc, entre le récit de Mme Urtibiz qui dit que son Ouija bougeait tout seul chez elle, dans son salon à Quaticook, et celui de centaines d'expériences menées dans des laboratoires à travers le monde avec des Ouija qui ne font que confirmer ce que les neuroscientifiques pensent, à savoir que ce sont des mécanismes idéomoteurs, ben, c'est à toi de faire ton choix. Moi, le mien, il est fait. Je vais m'orienter vers le côté de la science.
Mais Christian, je t'assure que c'était mon grand-père qui était venu dans la maison.
Eh oui, tu m'as encore déçu un autre jeudi à me décevoir, Christian.
Mais tant pis, tu auras une semaine pour y réfléchir.
Il y a quelque chose qui a été étudié, c'est les expériences de mort imminente, par exemple, éventuellement. Je ne sais pas si on pourra en parler, ouais, mais ça, il y a quand même des chercheurs.
Ça, c'est une autre affaire, mais là, le temps ne nous permet même pas de...
Oui, oui.
Et même dans le cas des fantômes, il y aurait plus à dire. Mais on y reviendra, et comme avec les morts imminentes, on y reviendra, on a tout le temps devant.
Ben, oui,
c'est le week-end, Christian.
Le week-end! Hey, demain, 18h, on est là.
OK, absolument. Ciao.
Ce segment d'émission est présenté par Coin Réno Déco. La place pour rénover et décorer à petit prix. Plancher de vinyle, mur de douche, déco, tout y est. Qualité, service et prix imbattable. CoinRénoDéco.com.
Le retour de Radio X.
Petite pause.
OK.
On revient dans pas long.
Radio X.